Je vous propose qu'on commence par Jean 21. Donc, on est après la résurrection du Seigneur Jésus, et Jésus est déjà apparu deux fois à ses disciples de façon groupée. Et pourtant, Pierre a entraîné six autres apôtres avec lui en Galilée, où ils ne sont pas censés aller, puisqu'ils sont censés attendre à Jérusalem, et il retourne à la pêche avec eux. Et on voit au verset 3, « Cette nuit-là, ils ne prirent rien ». Donc, c'est une situation d'échec, une situation où, voilà, ils font à leur idée, ils repartent dans leur ancienne façon, leur ancien métier, et en plus, ça ne marche pas, la nuit ne permet rien, et ils n'ont rien pu pêcher après toute cette nuit de pêche en Galilée. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que Jésus, le matin, il est là sur le rivage, il les attend. Et il leur dit de jeter le filet à droite, et là, ils font une pêche miraculeuse. Et en fait, ce qui me touche encore plus, c'est de voir au verset 9, « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. » Donc, Jean 21, verset 9, « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. » Et ensuite, verset 12 et 13, Jésus leur dit, « Venez, mangez !» Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. Et c'est juste incroyable. Jésus est ressuscité, il est glorieux. Sa divinité a été manifestée par Dieu le Père en le ressuscitant des morts. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Je prends un peu notre vocabulaire. Il prépare le petit déjeuner. Et c'est juste un passage que je trouve absolument incroyable de voir la sollicitude de Jésus pour ses disciples, la façon dont il prend soin d'eux, et il sait dans l'état dans lequel ils sont, ce dont ils ont besoin. Il va d'abord s'occuper de quelque chose d'extrêmement matériel, mais voilà, un enfant a envie de faire plaisir à ses parents, qui leur prépare le petit déjeuner pour leur apporter le petit déjeuner au lit. C'est la fête. Et même là, c'est la pensée de Jésus pour ses disciples qui préparent des petits poissons et du pain pour leur donner à manger le matin, alors qu'ils ont complètement échoué sur toute la ligne et qu'en plus, ils ont passé une nuit blanche où ils n'avaient rien obtenu. Et Jésus a dit, quand il était là avant sa mort et sa résurrection, qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir. Et en fait, après la résurrection, il continue à avoir cette attitude de ne pas chercher à se faire servir, mais encore de servir. Et c'est quelque chose juste d'inconcevable quand on pense à ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est le Dieu tout-puissant, et qui en fait a accepté de prendre un corps d'homme, et qui vient et qui a tellement de douceur, de sollicitude, qui prend soin de ses disciples. Et c'est un passage qui est assez particulier pour moi, parce qu'il y a eu une fois où j'étais vraiment la tête sous l'eau au niveau du travail. Je fais quelque chose qu'il ne faut pas du tout faire, mais j'ai passé la nuit blanche pour finir tout ce que j'avais de retard à faire, etc. Le matin à 7 heures, je n'étais pas très fraîche. Et en plus, il y a une forme de culpabilité en se disant, à ce moment-là, c'est le type de moment où il y a le verset du psaume 127:2, « En vain, levez-vous matin, vous couchez-vous tard, mangez-vous le pain de la douleur. » Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et soit on se dit, bon, moi, j'ai pas réussi à avoir force verset. Donc, voilà, j'ai fait avec mes moyens humains et je suis pas fraîche pour la journée. Et juste à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a rappelé ce moment où Jésus était au bord du rivage sur le lac de Galilée en préparant, en faisant griller les petits poissons et le pain sur le brasier. Et j'ai juste pensé à ça et ça a été juste une pensée qui m'a réconfortée de me dire, bah, Dieu, voilà, peut-être que c'était pas une décision très sage. Voilà, je demande pardon au Seigneur et puis, mais en tout cas, ça n'empêche pas que Dieu est plein de compassion et il est doux et il y a eu ce moment où il m'a manifesté sa présence de façon particulière en me rappelant ce passage à l'esprit. Et du coup, c'était juste la douceur de Dieu qui était là. Et voilà, je pense, Du coup, juste à la bonté, la compassion de Dieu qui est auprès de nous, y compris dans des situations dans lesquelles on s'est fourré. C'était peut-être pas les bonnes situations et c'était peut-être au départ, il y avait peut-être une mauvaise décision comme les disciples qui n'auraient pas dû repartir à la pêche, mais Dieu était là. Et Jésus-Christ a d'abord pensé à leurs besoins alors qu'ils étaient fatigués, ils avaient pêché toute la nuit sans résultat. Bon, sauf la pêche miraculeuse à la fin, mais ils avaient quand même passé une nuit à rien trouver. Voilà. Et puis je voudrais qu'on prenne un autre passage, c'est Jonas, chapitre 4. Je crois que c'est un passage qui a été vu par les monitrices d'école du dimanche il n'y a pas longtemps. Mais voilà. Donc, au chapitre 4, on voit Jonas. Alors, au chapitre 3, Jonas, qui est un prophète, a prêché dans une ville qui s'appelle Ninive, qui est la capitale de la Syrie, qui était l'ennemi principal à l'époque d'Israël. Et il leur a prêché le fait que Dieu allait les juger, qu'il fallait qu'ils se repentent. Et ils se sont tous repentis, depuis le roi d'Assyrie jusqu'à la personne la plus modeste. Et du coup, Dieu n'exerce pas de jugement contre Ninive. Alors, quand même, dans sa prédication, Jonas avait dit « Dans 40 jours, le jugement arrivera ». Donc, du coup, Jonas sent que il va pas y avoir de jugement et il est très irrité, mais il se met quand même sur une colline un peu à l'extérieur de la ville. Peut-être qu'il veut attendre quand même les 40 jours pour voir ce qui va se passer, je sais pas. Mais en tout cas, il est très irrité et au point qu'il demande à Dieu de le faire mourir. Donc, il est quand même très, très en colère. Et au verset 4, on peut lire ensemble, on voit que Dieu parle à Jonas et l'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin, mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Donc là, c'est un passage où on voit d'abord la sollicitude de Dieu pour Jonas et le ricin est une plante qui est connue pour pousser très vite. Normalement, c'est 20 cm par jour. Donc là, il y a un côté miraculeux parce que c'est peut-être 2 mètres en une journée, non pas 20 cm. Mais en tout cas, Dieu fait pousser cet arbre pour abriter Jonas et ça vient juste au moment où c'était nécessaire, où c'était... Voilà, ça a fait du bien à Jonas et Jonas en est heureux. Et puis, 24 heures plus tard, c'est l'inverse. Et il y a un ver qui vient et le ricin sèche. Et là, c'est la catastrophe. Et du coup, Jonas veut mourir à nouveau. Et c'est intéressant de voir que... Voilà, il y a des moments où Dieu peut intervenir en nous donnant une bénédiction matérielle dont on a besoin, enfin voilà, parce qu'il sait ce qui est utile pour nous à tel moment. Mais il y a aussi des moments où il la retire et en fait, on va voir que c'est un instrument que Dieu utilise pour l'amener plus loin et pour l'amener à comprendre son caractère, pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Et voilà, quelquefois, on s'arrête un peu au ricin et on oublie de voir l'image plus vaste. Et ce qui est très touchant, c'est que dans les deux passages, en fait, aussi bien Jésus au bord du lac de Galilée que Dieu avec Jonas, en fait, Dieu parle. Il utilise des choses matérielles et il va, dans le premier passage, apporter des poissons, du pain à manger aux disciples. Dans l'autre, il a apporté de la fraîcheur avec ce ricin qu'a poussé pour Jonas. Mais en fait, Dieu ne s'arrête pas là et Dieu parle et Dieu veut nous parler, y compris quelquefois dans les choses de la vie quotidienne qu'on peut traverser. Et si on reprend le passage de Jean 21, Dieu s'occupe de Pierre après qu'ils ont mangé. Il le laisse d'abord un peu récupérer, reprendre des forces. Et après, Pierre est dans une situation où il a été vantard, il a cru qu'elle allait pouvoir suivre Jésus, donner sa vie pour lui jusqu'à la fin. Et en fait, il a été amené à trahir Jésus au moment où c'était le procès de Jésus et quelqu'un l'a reconnu. Il a dit non, moi je connais pas Jésus parce qu'il a eu un réflexe instinctif de peur. Et on voit, si on lit des versets 15 à 19, Jésus l'amène jusqu'au bout de ses forces humaines. Il veut traiter quelque chose de profond dans son cœur et donc il va lui montrer que c'est pas par ses propres capacités que Pierre peut faire les choses. Et en lui reposant la question, d'abord, m'aimes-tu plus que les autres ? Et Pierre est obligé de reconnaître qu'il a de l'affection pour Christ, mais voilà, c'est pas un amour qui est capable de sacrifier. Ensuite, Jésus lui dit simplement, m'aimes-tu ? Pierre répond, j'ai de l'affection pour toi. Et la troisième fois, Jésus vient à son niveau en lui disant, est-ce que tu as de l'affection pour moi ? Et Pierre est triste et répond, Seigneur, tu sais toutes choses, mais simplement, Jésus insiste pour que Pierre réalise qu'il peut pas faire les choses par lui-même et que c'est pas dans son cœur qu'il va trouver la solution. Et ensuite, Jésus lui donne deux commandements très précis. Le premier, c'est « Sois le berger de mes brebis, sois un berger pour mes brebis » et le deuxième, « Suis-moi ». Et d'ailleurs, Pierre ne peut pas être un berger pour les brebis. Il peut pas les conduire, il peut pas les nourrir, il peut pas les garder s'il ne suit pas Christ. Il faut suivre Christ pour pouvoir s'occuper des brebis. Et on voit qu'il y a une transformation profonde qui se fait dans le cœur de Pierre, qui va lui donner la capacité ensuite d'être un évangéliste. Et dans les Actes des Apôtres, on voit combien Pierre parle à l'ensemble des personnes rassemblées. Et il y a des... Voilà, Dieu le conduit et il y a un témoignage extraordinaire de la part de Pierre. Et voilà, mais Jésus a commencé d'abord par être là dans sa situation et lui montrer son attention de façon très très concrète, de façon très très attentionnée en servant Pierre. Et c'est juste incroyable. Et ensuite, du coup, ça prépare le cœur de Pierre pour pouvoir recevoir un enseignement qui est très profond, où Jésus a besoin de traiter quelque chose qui est très important, qui est le fait que Pierre peut pas agir et être un berger par ses propres forces et dans sa propre capacité. Il faut qu'il reçoive de Dieu et qu'il accepte de reconnaître que c'est pas par lui-même. Et puis, si on regarde dans Jonas, en Jonas 4, on voit que c'est assez... Enfin, on pourrait facilement juger d'extérieur parce que, d'une certaine façon, Jonas est plus concerné par le ricin que par ce qui est le plus grand réveil de l'histoire. En fait, Jonas, on le voit prêcher une journée. Et il y a 120 000 hommes qui se convertissent, donc peut-être 250 000 personnes au total. Et c'est juste quelque chose d'absolument incroyable. Mais le problème fondamental, c'est le rapport de Jonas vis-à-vis du caractère de Dieu. Au verset 10 du chapitre 3 et au début du chapitre 4, on voit la repentance des Ninivites qui est absolument extraordinaire. Qui concerne toute la population et qui conduit Dieu à pardonner. Et on voit l'irritation de Jonas. Mais ce qui est très particulier, c'est qu'on voit que Jonas, en fait, connaît très bien le caractère de Dieu. Au chapitre 1, verset 9, il parle de Dieu. Il dit « L'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre ». Donc il connaît ce Dieu qui est le Tout-Puissant, qui a créé l'univers, qui est un Dieu qui est... qui pourrait sembler inatteignable, qui est celui qui a tout fait, mais aussi au chapitre 4, verset 2, il dit à Dieu, « Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Donc on voit à quel point il connaît le caractère de Dieu. Et le début du verset 9, en fait, c'est la citation d'Exode 34, verset 6, quand Dieu se révèle à Moïse au moment où il donne les nouvelles tables de la loi. Dieu avait donné la loi par l'intermédiaire de Moïse, et puis à un moment, le peuple a fait n'importe quoi, a adoré un veau d'or. Et Dieu va accéder à la prière de Moïse, il va pardonner, il va redonner la loi, et à ce moment-là, Dieu se révèle à Moïse, et il dit il se présente comme le Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et donc Jonas connaît ce caractère de Dieu et il cite exactement le passage d'Exode. Et puis à la fin, quand il est dit qu'il te répond du mal, c'est une citation qui est dans Joël 2 verset 13, où le prophète Joël reprend le passage d'Exode lui aussi en rajoutant « et qui te répond du mal ». Donc c'est un autre prophète. Et si on regarde les mots « compatissant », ça veut dire « tendre dans son affection ». Donc Dieu est tendre dans son affection. « Miséricordieux », c'est qui pardonne. « Lent à la colère », ça veut dire qu'il y a une justice qui va être exercée, mais en réalité, Dieu ne souhaite pas avoir à exercer sa justice, mais il souhaite pouvoir pardonner parce que le méchant se repent. Et riche en bonté, bonté, c'est le mot hesed qui parle de la bonté de Dieu, de son amour, avec une idée de loyauté et de fidélité à l'alliance. Donc Dieu est fidèle dans son amour parce qu'il a promis et il a passé une alliance. Et donc Jonas connaît ce caractère de Dieu et il connaît bien Dieu en fait, mais il est face à une situation qui est très difficile pour lui. Si on essaye de transposer, c'est toujours difficile de transposer, mais on peut peut-être s'imaginer que Dieu demande à un pasteur ukrainien d'aller à Moscou pour prêcher et que le président et toute la ville se repente. C'est un petit peu, ce serait un petit peu ça si on veut essayer de s'imaginer ce que ça peut être. Et en même temps, Dieu veut apprendre cette leçon à Jonas qu'il aime tous les hommes et pas seulement le peuple juif. Et donc on voit ensuite au verset 9 et 11 Dieu qui parle à Jonas en lui disant: est-ce que tu fais bien de t'irriter à cause du ricin? Et Jonas dit: je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit: tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, ta grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Donc on voit que Dieu parle à Jonas, en lui montrant que son cœur de compassion, effectivement, est pour tout le monde. Et Dieu a utilisé cette contrariété. D'abord une bénédiction et ensuite une contrariété quand Dieu a retiré la bénédiction matérielle pour parler au cœur de Jonas et lui dire que sa compassion s'étendait à tout le monde, mais aider Jonas à l'accepter. Même si c'était quelque chose de difficile, Dieu a traité ce point dans le cœur de Jonas en lui parlant, en utilisant ce qui était nécessaire pour interpeller Jonas et ensuite en lui parlant. Et voilà, je voulais ensuite juste revenir sur ces deux choses, l'exemple du pain et des poissons, l'exemple du ricin. Et réaliser simplement qu'on a besoin de connaître Dieu dans notre quotidien et on a un Dieu qui nous aime au point d'être concerné aussi par les détails de notre vie. Et Dieu est présent dans nos soucis quotidiens, dans nos détails, et on a le droit de tout lui dire et il est là. Et juste un petit exemple personnel, quand je suis rentrée de la semaine de vacances fraternelles, c'était le 15 août, j'ai accumulé une catastrophe. Je me suis trompée d'une heure dans l'heure de départ du train et je devais rendre la voiture de location. Et par miracle, j'ai attrapé le train. Quand j'ai rendu la voiture, il y avait des rayures sur le rétroviseur. Et normalement, il n'y avait personne à l'agence compte tenu de l'heure. Et juste là, en fait, il y avait quelqu'un, le responsable de l'agence, qui était encore là, qui a regardé autour, qui me dit « Oh, bah, tout va bien ». J'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai dit « Non, il y a des rayures sur les rétroviseurs ». Et il m'a dit « Oh, mais écoutez, vous êtes honnête, je vous en fais cadeau ». Merci Seigneur. Et quand je suis arrivée à la maison, j'avais oublié de prendre mon Vigic. Je venais de déménager, c'était la première fois que j'avais un Vigic. Et du coup, je ne pouvais pas rentrer chez moi. C'était le 15 août, j'ai fait tous les noms de... de l'immeuble et personne ne répondait à l'interphone, donc j'étais en train de me dire est-ce que je vais demander l'asile chez un tel ou etc. Et juste à ce moment-là, il y a ma voisine qui rentre de vacances aussi en même temps et qui m'ouvre. Et honnêtement, ça m'est aussi arrivé un jour de rater un train, ça m'est arrivé d'oublier mes clés au travail et de devoir dormir ailleurs que chez moi une nuit. Et ça m'est arrivé de devoir payer des réparations d'une voiture de location. Donc, je veux pas dire que Dieu fait ça systématiquement. Et voilà, on n'a pas un Dieu qui a, c'est pas un distributeur de confiserie. Enfin, voilà. Mais là, bon, Dieu a permis dans sa grâce de prendre soin. Donc, voilà, je me suis dit, Seigneur, je veux l'accepter, puis me dire que peut-être que tu veux me montrer de façon particulière aujourd'hui que tu prends soin et te faire confiance et retenir la leçon que tu me donnes, que voilà, quelquefois quand je fais des bêtises, tu es là et tu voilà. Merci Seigneur, et être reconnaissante et en sachant que Dieu peut très bien ne pas le faire la fois d'après, que c'est pas une assurance. Mais je crois que on a le droit de, en tout cas, demander des choses à Dieu dans notre quotidien et de savoir que Dieu est présent avec nous, y compris dans les petites choses. Et en même temps, on a besoin d'accepter qu'il nous amène plus loin et qu'il nous donne son regard sur les choses. Et du coup, écouter sa voix à la fois quand Dieu est présent avec les pains et les poissons, quand il amène le ricin et quand il amène le verre. Voilà, savoir que la volonté de Dieu, c'est aussi de nous amener plus loin et nous porter nos regards au-delà du ricin et du verre. Et notre petit exemple personnel pour imaginer les choses, mais il y a une période où je fréquentais un jeune homme dont j'étais très amoureuse, et puis il était à l'étranger. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'était pas formidable de se fréquenter à distance, et il avait le projet de venir en France. Donc je lui ai dit, écoute, on coupe, et puis dans un an, on verra. Et puis au bout d'un an, ça revenait, du coup, chaque jour, je me disais, est-ce que je vais... est-ce qu'il va me redonner un signe de vie, etc. Et j'étais un peu, dans mes émotions, c'était pas terrible. Et puis un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai appris qu'un couple d'amis retraités que j'aimais beaucoup, qui travaillait au Maroc et qui apportait des vivres au Maroc, venait d'être arrêté au Maroc. Des gens que je connaissais par porte ouverte. Et ça m'a... Dieu a utilisé ça pour me décentrer un peu de moi-même. Et j'ai senti que Dieu m'apprendre quelque chose et savoir que il y avait aussi d'autres choses. Et c'est Dieu a utilisé ça pour préparer mon cœur et pour que je m'intéresse aussi. Peut-être à d'autres choses qui concernaient son royaume que mes propres pensées ou et puis après ce garçon m'a dit qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre entre temps, donc ça n'a jamais abouti, mais ça a été particulier et je sais que c'était Dieu qui utilisait ça, qui était là. Et je pense que c'est incroyable de savoir qu'on a un Dieu qui... Alors, c'est pas Saint-Michel qui utilise les termes de, à la fois d'immanence et de transcendance. C'est-à-dire qu'on a un Dieu qui est transcendant. C'est un Dieu qui existe en dehors de l'espace et du temps. Il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il a toujours existé. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de nous. Il est transcendant. Et en même temps, il est immanent, c'est-à-dire qu'il est présent aussi dans notre espace et dans notre temps. il est proche de nous et il vient même habiter en nous par le Saint-Esprit. Et c'est juste incroyable de voir que Dieu veut se faire connaître de ces deux façons-là, d'une certaine façon, à la fois qu'on reconnaisse sa toute-puissance, sa gloire, et en même temps qu'on puisse le connaître comme un Dieu qui est proche de nous. Et j'étais touchée quand on a regardé le film La Voix du Pardon. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un biopic qui concerne un chanteur chrétien qui s'appelle Bart Milland, qui a écrit un chant qui a eu plusieurs disques d'or, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, I Can Only Imagine. Et après, j'ai regardé des commentaires sur Internet à propos du film, et il y avait des commentaires un peu dans les deux sens. Il y avait des gens qui se disaient qu'ils ne comprenaient pas trop la chanson et qu'ils avaient été très déçus en l'entendant à la fin du film. Et il y en avait d'autres, au contraire, qui avaient été extrêmement encouragés par cette chanson. Et c'est vrai qu'au début, j'étais presque un peu étonnée parce que le chant est très simple. Il dit simplement, quand je serai face à toi, Seigneur, je ne sais pas comment ce sera, je peux juste imaginer aujourd'hui. Peut-être que je courrai vers toi ou peut-être que je serai en train de me prosterner à tes genoux. Peut-être que je crierai Alléluia ou peut-être que je serai bouche bée d'admiration. Je ne sais pas comment ce sera, je peux juste imaginer. Et du coup, ça m'a fait réfléchir après tout week-end. Et en fait, je me suis dit que c'était beau parce que dans une situation douloureuse que le chanteur avait vécue, en réalité, il ne pensait plus à lui-même, il pensait à Christ et il pensait à ce qu'il nous attendait au ciel et le fait qu'on verrait un jour notre Seigneur face à face. Et c'est vrai que si on se convertissait et qu'on allait au ciel directement dans les 3 minutes qui suivent, quelque part, ce serait beau parce qu'on rencontrerait le Seigneur, mais on rencontrerait quelqu'un qu'on connaît pas finalement. Ouais. Alors que voilà, le jour venu, quand Dieu nous rappellera à lui, forcément on sera émerveillé, on sera, voilà, je pense que complètement dépassé par la grandeur de Dieu. Et en même temps, on va voir quelqu'un, on va voir notre Seigneur qu'on a connu déjà sur cette terre. Et ça, c'est juste incroyable de se dire que dans notre vie aujourd'hui, c'est aussi un moyen d'entrer dans une connaissance plus intime avec ce Seigneur qu'on va voir ultimement au ciel. Et du coup, voilà, par les petites choses, on peut aussi avoir une intimité avec Christ, mais dans le but aussi de le faire connaître aux autres. Et du coup, de connaître le plus possible son caractère pour pouvoir le faire connaître aux autres et témoigner de sa compassion, de sa fidélité, et voilà, de plus en plus. Et quand on voit Christ à la croix, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est que même sur la croix, en fait, Christ était attentif aux autres. Et si on regarde les paroles de Christ à la croix, la première, en Luc 23, 34, c'est Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et en fait, Jésus se soucie des soldats qui sont en train de le crucifier et prie au Père pour eux. Sa deuxième parole, c'est je te le dis en Luc 23, verset 43. Luc 23, 43. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. En fait, il se soucie de l'un des deux brigands qui est crucifié à côté de lui et il a une parole pour lui. Et la troisième parole, c'est en Jean 19, verset 26 et 27. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et voilà, c'est cette troisième parole, c'est pour sa mère. Et il se soucie de sa mère qui est près de la croix et dont l'âme est transpercée parce qu'elle voit son fils crucifié. Et il va prendre soin d'elle et demander à Jean de la prendre avec elle. Et donc, c'est juste incroyable de voir que à quel point Dieu a été en souci, parce que c'est vrai qu'à la croix, il donnait sa vie pour l'humanité, donc il pensait à tout le monde, mais il a été aussi encore dans le souci de personnes qui avaient besoin autour de lui. Voilà. Et je pensais juste que même quelquefois quand on va pas très bien, on peut quand même apporter quelque chose à quelqu'un d'autre qui est à côté de nous, qui en a besoin, qui va avoir besoin d'une parole gentille, de quelque chose qui va apporter un petit peu de réconfort ou quelque chose de la lumière de Dieu. Et je pensais, alors il y a voilà, chacune pour moi est un exemple. Et dans ce contexte-là, en tout cas, je pensais en particulier à Ingrid et à Pascal, y compris dans la maladie, continuant d'apporter, de témoigner. Ingrid, tous les chauffeurs de taxi qui ont pu l'amener à l'hôpital et qui ont entendu parler du Seigneur par ton intermédiaire, Pascal, voilà, pendant les mois passés. Et c'est un témoignage très, très précieux pour moi. De voir que, parce que moi quand je suis malade, faut surtout que ça passe. Non, faut surtout que ça passe le plus vite possible. Et puis, je suis pas trop capable de penser aux autres. Donc, voilà, je suis très, très touchée et c'est vraiment un exemple et une leçon précieuse pour moi de voir que, voilà, même dans des situations difficiles, vous avez communiquer la lumière de Christ autour de vous et que voilà, il y a besoin d'apporter la lumière de Christ même si on n'est pas forcément dans la meilleure situation et là aussi le plus facile. Dieu est présent, il est proche de nous et en même temps il veut nous emmener à communiquer cette proximité aussi aux autres et donc ne restons pas fixés sur le ver qui vient ronger peut-être notre confort et qui va nous empêcher de nous réjouir de choses qui sont plus grandes. Et pour finir, je pensais juste au fait que Jésus a donné sa vie et en se comparant même à un ver sur la croix. Dans le psaume 22, verset 7, « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Et voilà, donc, pensez à Christ.